Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'écouter Canal Académie. Marc Fumaroli, de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a consacré de nombreuses études à la rhétorique. La métaphore est une des figures majeures de la rhétorique et dans son dernier ouvrage, le livre des métaphores, Essai sur la mémoire de la langue française, Marc Fumaroli s'attache à ces expressions, locutions imagées que nous utilisons quotidiennement. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Les choses s'envolent, les mots demeurent, c'est le titre de votre introduction, un clin d'œil au proverbe latin « Verba volant scripta manent », les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, les choses s'envolent, les mots demeurent. Quel charme irrésistible vous a incité, monsieur, à cette chasse aux métaphores, ce que vous appelez de minuscules chefs-d'œuvre de la langue française?
Oui, la métaphore, vous l'avez dit, c'est une des figures de l'ornement telle que la définit la rhétorique classique. Et naturellement, c'est un des mécanismes de tout langage, pas seulement du français, absolument capital, parce qu'il permet de passer d'un sens propre, d'un sens très circonscrit, très concret, très premier, très primitif même, à un sens second, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui oublie, ou qui feint d'oublier, de quelle base il est parti. C'est-à-dire le passage du sens propre au sens figuré. Et c'est une des grandes possibilités de la langue, parce que cela lui permet de se promener dans le temps, de se déplacer dans l'espace, de passer du réel à l'imaginaire, de passer du concret à l'abstrait, ou en tout cas du particulier au général. Donc c'est vraiment, du point de vue de la rhétorique, et donc du point de vue aussi de la structure de la langue, un des instruments de travail les plus importants, les plus centraux. Alors moi, ce que j'ai étudié, ça n'est pas la métaphore en général, c'est la métaphore que l'ensemble des locuteurs français a plébiscité, si j'ose dire, a accueilli comme appartenant à la généralité de la langue et qui s'est fixée en quelque sorte dans la mémoire de la langue d'une façon extrêmement durable. Alors j'en cite beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y en avait encore beaucoup plus que je ne l'imaginais, et ces métaphores figées en quelque sorte, elles reprennent vie dès qu'on les utilise dans la langue courante, elles nous fournissent des raccourcis extrêmement précieux pour ne pas avoir recours à l'abstraction.
À des analyses parfois obscures, ça va beaucoup plus vite.
On ne peut pas résumer mieux sa pensée qu'en trouvant ou en retrouvant ou en déguisant une de ces métaphores. Et peut-être faudrait-il en citer quand même quelques-unes pour que nos auditeurs sachent à quoi ils ont affaire.
Pouvez-vous nous évoquer quelques-unes de vos métaphores? Vous avez choisi dans le domaine du corps, car c'est le plus répandu, les émotions, et puis aussi dans le domaine de la chasse.
Alors dans le domaine du corps, qui a fourni énormément de métaphores à ce langage imagé, on peut citer par exemple « les bras m'en tombent », c'est une expression que je trouve irrésistible. « Prendre son courage à deux mains », qui est une expression quasiment surréaliste. « Ne pas payer de mine », la mine, c'est une expression du visage. Mais aussi, on dit de façon extrêmement courante, et toujours avec une référence au corps qu'on oublie, mettre sur pied un projet. Ou alors, dans le domaine de la chasse, avoir du plomb dans l'aile. Ou encore, faire buisson creux. Ou encore, pêcher en eau trouble. Alors là, on passe de la chasse à la pêche. Ou encore, toujours dans le domaine de la chasse, avoir vent de quelque chose, parce que, à l'origine, au sens propre, il s'agit d'un vent qui apporte un renseignement précieux, c'est-à-dire la présence
du gibier,
toute proche, et dont il faut repérer la direction. Voilà des expressions qui toutes partent d'un objet, d'une réalité très simple, très immédiate, très quotidienne, et qui peuvent être ornés un discours, parce qu'il n'y a pas seulement le sens, il y a aussi le fait que c'est joli, c'est une image ravissante, elle est vivante, on soupçonne vaguement d'où elle vient, même si on ne le sait pas. Et donc ça donne au discours une saveur qu'elle n'aurait pas sans ces expressions qui sont à la portée de tous, puisqu'elles figurent désormais dans le répertoire de la langue. Elles ne sont plus, elles ne portent pas un droit d'auteur, on a oublié son origine. J'ai cité beaucoup d'expressions qui viennent de La Fontaine, évidemment, il en a inventé énormément.
Oui, parce qu'en plus, ce sont des fables brèves.
Elles ont toutes
déjà
été adoptées par les Français depuis 4 siècles.
Oui, alors justement, ce ne sont quand même pas des citations, ce ne sont pas de l'argot, puisque c'est dans
le domaine commun. Alors justement, une des reproches que je fais aux gens, d'ailleurs parfois très attachés à la langue et amoureux de la langue, comme Claude Duneton, qui ont présenté en fait souvent dans leurs chroniques ces expressions, qui les aimaient vraiment, mais ils les ont toujours présentées comme ayant un caractère populaire, ayant un caractère presque d'argot, ce qui leur paraissait d'ailleurs un éloge. Mais moi, je dis que ça n'est ni populaire ni d'argot, parce que l'argot, c'est une langue spéciale.
Oui, c'est
l'argot. C'est pas du tout une langue spéciale.
L'argot, c'est ça... anticonformiste.
Non, mais
que
l'argot
là,
aussi,
ça
c'est
pas
une langue d'un petit groupe qui parle entre eux et qui se comprennent entre eux, alors que la trois quarts des gens ne les comprennent pas. Tandis que là, tout le monde le comprend. Et j'ai choisi d'ailleurs des expressions qui appartenaient au domaine public.
Oui, tout un chacun.
Voilà, tout un chacun. La langue, c'est le domaine où tout un chacun se retrouve. Et là, il y a à notre disposition ce matériau magnifique, ce matériau préparé par les âges, par les générations, par nos ancêtres, ou parfois par des locuteurs antérieurs de 50 ans ou 100 ans, ça dépend. Mais en tout cas, qui nous offre des possibilités d'expression qui ne prennent pas l'abstraction comme référence, mais le concret, le vivant, le particulier, le sensible, en fin de compte.
Et il y a encore quelque chose qui est important à noter, c'est que ce n'est pas tout simplement des comparaisons.
Ah non, alors justement, j'ai éliminé les comparaisons, parce que les comparaisons, c'est sans fin, ça n'est pas fixé. On dira « il est fort comme un lion », mais on pourra dire aussi « il est fort comme un tigre » ou « il est fort comme… »
Comme Hercule.
Comme Hercule. Enfin bref, pour indiquer la force, on a au moins 20, 30, 40, 50 comparaisons à offrir. Les expressions dont je parle sont des expressions qui sont compactes. Elles ont leur propre structure, elles ne bougent pas. Donc j'ai éliminé tout ce qui passe par « comme ». Et la comparaison n'est pas une métaphore, c'est tout à fait différent. La métaphore suppose le passage du sens propre au sens figuré, je le répète.
Donc elle transfigure quelque chose.
Et elle transfigure, et elles élargissent, elles s'accroissent, et elles font un peu oublier, mais subtilement, leur origine pour maintenir quand même un air de déjà-vu très agréable. Tandis que la comparaison, c'est chaque fois quelque chose de différent, et ça n'est pas d'une originalité ou d'une force d'expression aussi vive, à mon avis.
Alors, vous avez fait un classement particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est par thème, parce que les métaphores sont toujours issues d'un milieu particulier, et à l'intérieur de ce thème, par famille de référence. Il y a des liens familiaux.
Oui, c'est ça. J'ai classé ces métaphores lexicalisées, comme disent les linguistes, ces gallicismes, parce qu'en général, ce sont des expressions très françaises et qui sont intraduisibles en anglais ou dans une langue étrangère. Je les ai classées non pas par ordre alphabétique, parce que là, elles sont noyées et on ne sait plus très bien à quelle famille elles appartiennent, mais comme vous le dites, par famille et même, je dirais presque plus exactement, par lieu commun. Par exemple, le corps, c'est un lieu. Alors évidemment, c'est un lieu extrêmement pluriel. Il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, il y a le dos, il y a tout. Il y a même les génitalia. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de grouper ces expressions par lieu d'exercice. Alors il y a aussi, outre le corps, il y a la maison, il y a la ferme. Et autour de la ferme,
il y a
l'étable, il y a le jardin, il y a aussi la forêt. Et puis ensuite, on passe à ce qui se passe dans la forêt, c'est-à-dire la chasse. Et puis après, on passe aussi à ce qui se passe à la rivière, c'est-à-dire la pêche. Et puis on passe aussi à la guerre sur terre, à la guerre sur mer. Et là, on a un vocabulaire qui, au départ, s'applique de façon spécialisée à des activités artisanales ou à des activités en quelque sorte de survie extrêmement vivante, à des généralisations qui, aujourd'hui, sont toujours en usage. Et alors, du coup, c'est pour ça que je peux dire, les choses s'envolent, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la chasse soit une activité tellement répandue. On ne peut pas dire non plus que l'élevage des bêtes se fasse encore dans l'étable. Mais, en fait, dans nos expressions, la France d'il y a deux siècles, toute agricole, toute féodale presque encore, elle est présente dans ces expressions comme une sorte d'image un peu floue qui subsiste dans la mémoire de la langue et dont nous ne nous rendons pas compte. Tandis qu'avec mon classement par lieu, c'est un paysage qui se déploie. Vous avez le corps, mais vous avez aussi, comme je le disais, la campagne avec sa ferme, avec son château. Vous avez la ville, vous avez aussi les champs de bataille, vous avez aussi les champs de bataille maritimes, et vous avez tout le vocabulaire qui est lié à ces activités spécialisées, mais qui ont donné dans la langue des formules qui peuvent s'appliquer même à notre vie d'aujourd'hui.
Et c'est pour ça que vous avez dit gallicisme tout à l'heure, et c'est pour ça que vous défendez aussi une forme de patrimoine.
Oui, c'est un patrimoine.
Contre le globish, qui est l'assimile
internationale. Oui, parce que dans la langue, chacune des langues a un patrimoine du même genre, mais intraduisible. Parce que nous avons eu une aristocratie qui adorait la chasse, des rois qui passaient une grande partie de leur temps à chasser, ce qui fait que la chasse a joué dans notre histoire et dans notre identité un rôle capital. Ce qui fait que le chapitre de la chasse, dans mon livre, est considérable. La chasse ou la vénerie, si vous voulez. De même, le chapitre sur tout ce qui est guerre, armée, tout ce qui est lié à la vie militaire, joue un rôle énorme parce que nous avons été un pays qui a passé une bonne partie de son temps à guerroyer pour son malheur quelquefois, et même parfois assez souvent pour sa défaite. Mais il est évident qu'en italien, par exemple, nous ne trouverons pas la même dimension cinégétique. Nous ne trouverons pas l'importance de la vénerie. Ça n'a jamais été pour l'Italie, même pour l'aristocratie italienne, une chose aussi importante que pour nous. N'oubliez pas, par exemple, que les rois de France ne chassaient qu'à court. C'était un des privilèges de la cour de France. On y chassait à court. On ne tirait pas. On ne tirait pas. Alors que regardez un portrait de roi espagnol peint par Velázquez, le roi se tient avec un fusil. Jamais vous ne verrez un roi de France avec un fusil. C'est déshonorant. Pour lui, il chasse les animaux, il chasse le cerf.
Le cerf principalement, parce que le sanglier, c'est
mais même d'autres,
côté,
par exemple.
Oui,
par exemple, le fameux sanglier, il le chasse, mais il le chasse au pieu. Et là, c'est une tradition qui remonte aux Mérovingiens, et que Louis XVI respectait encore. Mais même aujourd'hui, il y a des sociétés de chasse où l'on ne pratique que la chasse à court. La chasse au renard à l'anglaise, c'est presque déshonorant, vous comprenez ? Alors ce sont des détails pareils qu'on retrouve en fouillant dans ces images et qui sont en quelque sorte des traits d'histoire, des mentalités extrêmement passionnantes.
Oui, vous parlez beaucoup de chasse parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, vous avez fait la chasse aux métaphores et vous dites, et vous dites que c'est un sport, je vous cite, indispensable, la chasse aux métaphores, hein, pour la santé, la bonne humeur, la plaisanterie et en plus, c'est une chasse ouverte toute l'année.
Oui, c'est exact. C'est une métaphore dans la métaphore.
J'ai bien compris. Ce que je voulais aussi qu'on évoque, parce que vous l'avez cité un petit peu dans la conclusion de votre présentation initiale, c'est les fleurs de Tarbes de Jean Paulhan. Jean Paulhan, lui, disait que le reproche que l'on fait au lieu commun ne tient pas debout. Et les fleurs de Tarbes, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet écriteau que l'on voit devant un jardin public à Tarbes et qui interdit d'entrer au jardin public avec une fleur à la main ?
Oui, c'est vrai. Mais je pense que si on veut remonter à l'origine de ce livre, on peut évidemment remonter pas trop loin. J'ai participé pendant plusieurs années à la commission du dictionnaire de l'Académie française. Et là, j'ai pris goût vraiment à cette espèce d'exercice totalement désintéressé, totalement gratuit, d'une utilité peu évidente à première vue, mais passionnante pour ceux qui s'y livrent dans le plaisir de la conversation, comme c'est le cas de la commission du dictionnaire. Et je me suis rendu compte que s'occuper des mots, de définir les mots, de définir les nuances qui séparent les différents sens des mots, c'était passionnant et c'était excellent pour la santé. Alors je me suis dit, à partir du moment où j'ai quitté la commission pour aller présider une autre commission ailleurs, je me suis dit, mais je vais continuer quand même à pratiquer cet exercice et je vais partir à la chasse aux métaphores, aux expressions imagées, au sens plus étroit, qui m'intéressent. Mais il est bien évident qu'à l'origine de tout cela, il y a aussi mon intérêt, que j'ai appris très jeune, pour la rhétorique, pour cette vieille discipline du discours que l'on a eu tendance à oublier au cours du romantisme, au cours du XIXe siècle, mais dont je crois qu'elle est d'une des inventions les plus brillantes et les plus profondes et les plus méconnues de la Grèce et de Rome. Surtout de la Grèce, bien sûr, mais Rome l'a pris complètement à son compte. Alors, la rhétorique, ça suppose que le dialogue implique des règles respectées par les deux interlocuteurs et une connaissance artisanale, mais tout de même une connaissance de la langue, de façon à ce que l'utiliser pour comprendre autrui, pour prévoir sa riposte, pour prévoir ses réactions de la manière la plus ingénieuse et la plus compétente. Donc c'est une discipline que tout le monde devrait apprendre très vite, très tôt. Or, on l'a abandonnée tout simplement parce que le romantisme est fondé, et le modernisme encore plus, est fondé sur l'idée qu'il n'y a rien d'intéressant qui ne soit totalement nouveau. Tout ce qui met ses pieds ou ses pas dans ce qui a été déjà foulé est sans intérêt. Or, la rhétorique suppose effectivement une expérience même millénaire, ou en tout cas séculaire, et cette expérience, elle nous donne les moyens justement de l'interpréter de manière efficace, parce que l'humanité ne changeant pas tellement au fond, on peut se servir d'instruments qui ont été élaborés par des ancêtres pour obtenir une fin qui est bien contemporaine. Alors, il y a un auteur de chez Gallimard, des auteurs d'ailleurs les plus prestigieux de la maison, Jean Paulhan, qui était très préoccupé par cette question et qui a écrit plusieurs livres, mais le plus important, c'est celui que vous avez mentionné, c'est « Les fleurs de Tarbes », pour essayer de faire comprendre à nos contemporains, à ses contemporains d'abord, mais à nous encore, à quel point on avait perdu quelque chose en abandonnant la rhétorique. Et il est devenu un apologiste de cette rhétorique oubliée, trahie, piétinée. Aujourd'hui encore, quand on veut déconsidérer quelqu'un, on lui dit « Oh, encore sa rhétorique !» ou « Encore cet homme politique avec sa rhétorique !» C'est-à-dire, en fait, la rhétorique est identifiée au mensonge, à l'artificialité, à la sophistique. Et Paulhan dit, au contraire, on ne peut faire de bonne littérature, on peut faire de la bonne poésie que si on a, en quelque sorte, une expérience qui vous dispense de tout recommencer à zéro. Hein. Et que vouloir sans cesse partir de zéro, partir de la table rase pour recommencer, c'est épuisant. Et d'autre part, cela donne effectivement à tout ce que l'on écrit un caractère hystérique, nerveux, anxieux, dont la tradition rhétorique voulait nous dispenser. Alors, dans « Les fleurs de Tarbes », le titre est ravissant, vous l'avez tout de même senti, comme Paulhan était un homme du Midi, il nous rappelle qu'à Tarbes, il y a un jardin public, avec des fleurs, naturellement, au moins dans les saisons florales, et à l'entrée du jardin, il y a...
Il est défendu d'entrer dans le jardin avec des fleurs à la main.
Avec des fleurs à la main.
Voilà, et la raison, c'est parce que, explication probable de l'écriteau de ce fameux jardin public de Tarbes, c'est qu'une dame se promenait avec une rose. Le garde lui a dit « Vous savez bien qu'il est défendu de cueillir des fleurs. »« Je l'avais en entrant », a répondu la dame. « Eh bien, termine le garde, il sera défendu d'entrer avec des fleurs. »
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est une histoire, effectivement, c'est ce que vous disiez pour la rhétorique, c'est-à-dire les générations ne peuvent pas communiquer
bénéficier
les unes
de l'expérience
de les précédentes.
Que les précédentes ont faites. Et au fond, ce qu'on appelle les fleurs de rhétorique, parce que c'est une expression qui est courante depuis l'Antiquité, ce sont justement les métaphores. Les métaphores, ce sont des fleurs. C'est-à-dire par opposition au langage informatif, si vous voulez,
oui,
qui est simplement...
C'est de la poésie, les métaphores.
Non, ce sont des fleurs du langage. Et les fleurs de Tarbes, ce sont simplement le sens propre de se figurer qui est tellement important. Et ces fleurs, comme les roses d'ailleurs, elles n'ont pas besoin d'être neuves, elles n'ont pas besoin d'être nouvelles. Plus elles se ressemblent, plus elles sont belles, plus elles sont capables de modifications infimes d'une génération de fleurs à une autre, et plus on les appelle toujours roses et on prend toujours d'elles un plaisir renouvelé. Alors la question, c'est de savoir si on peut éternellement fonder la littérature sur la nouveauté, sur une nouveauté comme un dogme, comme une terreur, parce que pour l'on parle de la terreur, du neuf, de l'inédit, du jamais vu, du jamais entendu.
La rupture.
Et cette rupture permanente qui fait qu'on doit toujours repartir d'une table rase effrayante et même désespérante. Et puis, ce qu'on pourrait appeler la tradition, ce qui se livre d'expériences acquises et qui nous dispense de faire de nouveau tout le chemin. Alors là, c'est une question qui n'est que latérale à la question des métaphores, mais malgré tout, dans mon livre, ce que l'on voit, c'est que ces plébiscites successifs qui ont fait entrer dans la langue de façon unanime des expressions que la plupart des locuteurs ont trouvées excellentes et extrêmement fécondes pour leur expression et pour leur parole quotidienne, eh bien, elles ont en quelque sorte une origine qui n'est pas la nôtre, qui nous vient d'ailleurs, et pourtant, nous en bénéficions. Ce patrimoine nous est extrêmement précieux. Alors, au fond, indirectement, mon livre plaide pour les continuités, pour ne pas privilégier la rupture, pour s'attacher, en quelque sorte, à bénéficier de leçons depuis longtemps engrangées, mais qui n'en sont pas moins toujours vivantes, toujours utiles, toujours fécondes.
Oui, il s'agit aussi non seulement de l'enrichir, mais réhabiliter, parce que de nos jours, le langage, et on en terminera par là, le langage est beaucoup moins sensuel qu'il l'était à l'époque, ou sensible.
Sensuel, c'est peut-être pas le mot, mais sensible, oui. Parce que, en fin de compte, toutes ces métaphores suppose qu'au point de départ, il y a l'expérience concrète, l'expérience chaleureuse d'un artisanat, d'un sport, d'une activité réglée, si j'ose dire, ou qui obéit à des règles, une activité artistique en fin de compte. Et à partir de là, effectivement, la langue se sent rajeunie, ravivée, parce qu'elle ne renvoie pas à des abstractions, mais elle renvoie à une réalité.
Merci beaucoup, Marc Maroli. Vous nous avez aussi offert ce livre comme une promenade dans un cabinet de curiosité, puisque tout est évoqué.
Pas tout. Et d'autre part, j'ai certainement oublié beaucoup d'expressions. Je fais appel à mes lecteurs pour qu'ils m'aident à compléter ce livre dans les prochaines éditions.
Très bien, merci. Au revoir, monsieur.
Merci beaucoup.
Thank you.